Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, couvre-feu dans la région de Tillabéri au Niger après l'évasion de détenus d'une prison de haute sécurité non loin de Niamey. Au Kenya, le chef de la police démissionne après les manifestations meurtrières. Ici aux États-Unis, certains démocrates continuent de demander le retrait de la candidature du président Joe Biden à la présidentielle au lendemain de sa conférence de presse. Le Hamas propose un gouvernement palestinien indépendant pour l'après-guerre à Gaza. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Niger, plusieurs détenus se sont évadés de la prison de haute sécurité de Koutou-Calais, près de Niamey, dans l'ouest du pays, où sont emprisonnés des djihadistes. L'annonce est faite par les autorités qui ont décrété un couvre-feu dans la zone. Yacouba Ouédraogo.
Dans un message radio, le ministère de l'Intérieur a informé le gouverneur de la région de Tillabéri de l'évasion des détenus de la prison d'arrêt de Koutou-Calais à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Le ministère ne précise pas le nombre de prisonniers qui se sont évadés de cette prison de haute sécurité où sont incarcérés les détenus les plus dangereux, dont des djihadistes. Les autorités régionales de Tillabéri ont instauré hier soir un couvre-feu dans la zone et interdit la circulation des engins à deux roues et des véhicules à partir de 21h locale. Dans les recherches des évadés, le ministère demande aux autorités de Tillabéri de mettre à contribution les chefs traditionnels et les leaders religieux, leur demandant de sensibiliser les populations dans la dénonciation de tout individu suspect. La région de Tillabéri est située dans la zone dite des trois frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La prison de Koutou-Calais a déjà connu deux attaques en mai 2019 et en octobre 2016.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont éclaté ce matin à Niange et plusieurs localités environnantes à environ 70 km au nord-ouest de Goma. Des témoignages font état de combats entre les rebelles du M23 et les Wazalendo, ces groupes armés associés à l'armée congolaise. Le chef de la police kényane a démissionné, a annoncé ce vendredi le porte-parole de la présidence. Cette démission intervient plus de deux semaines après des manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre qui ont fait au moins 39 morts. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
Le président kényan William Ruto a accepté la démission de Japheth Koome, le président de la police kényane, selon un communiqué du Sen Mohamed, porte-parole de la présidence. Monsieur Koome était à la tête de la police depuis novembre 2022. Sa démission survient au lendemain du limogeage par William Ruto de la quasi-totalité de son gouvernement, à l'exception du ministre des Affaires étrangères et du vice-président, pour tenter de répondre au mécontentement croissant à la suite d'un projet de budget impopulaire. Monsieur Ruto avait déjà annoncé le 26 juin le retrait de ce projet qui prévoyait des hausses d'impôts au lendemain d'une journée de violence meurtrière marquée par l'assaut du Parlement par de jeunes manifestants. Ces mêmes jeunes promettent de retourner dans la rue jusqu'à ce que William Ruto quitte le pouvoir.
Toujours au Kenya, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête après la découverte aujourd'hui de corps gravement mutilés de 6 femmes dans une décharge de la capitale Nairobi. Des enquêtes ont été ouvertes pour établir l'identité et la manière dont ces personnes ont été tuées, a déclaré Adamson Bungay, le chef de la police de Nairobi. Au moins 16 élèves ont été tués vendredi dans le centre du Nigeria où leur école s'est effondrée pendant des examens. Des élèves coincés ont crié à l'aide sous les décombres de l'école Sainte Académie à Jos, la capitale de l'état du plateau, qui s'est donc écroulé sur des salles de classe. Des pelleteuses mécaniques ont été à l'œuvre pour tenter de secourir des survivants sous les décombres. Les secouristes ont annoncé la fin des opérations de recherche. Au Sénégal, l'Alliance pour la République, l'ancien parti au pouvoir, a critiqué le nouveau gouvernement à l'occasion des 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye. Selon l'opposition, les nouvelles autorités sénégalaises mènent, je cite, une gouvernance sans cap qui a mis le pays en pause et dans l'incertitude. Le président Faye doit s'adresser demain soir à la presse nationale. Des partis politiques sud-africains réclament l'ouverture d'une enquête suite à des allégations selon lesquelles Julius Malema, chef des combattants pour la liberté économique, un parti d'opposition, aurait reçu des pots de vin liés à un scandale bancaire. L'ancien président de la VBS Mutual Bank a été condamné mercredi à 15 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation de fraude, de racket, de blanchiment d'argent et de vol. Cette banque sud-africaine s'est effondrée en 2018 après 3 années de pillage par des cadres et des politiciens dans le cadre d'une fraude bancaire massive surnommée le Grand Casse.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden a donné une conférence de presse d'une heure hier. Pendant qu'il s'exprimait devant les journalistes, 2 autres démocrates l'ont appelé à retirer sa candidature à la présidentielle de novembre. Nathalie Barge.
Joe Biden a dit vouloir terminer le travail engagé et a assuré qu'il sera toujours capable, s'il est réélu, de gérer les présidents chinois et russes Xi Jinping et Vladimir Poutine. Suite au débat du 27 juin face à Donald Trump, où il était apparu confus et fatigué, son aptitude à effectuer un second mandat fait l'objet d'une vive attention. Peinant parfois à finir ses phrases, le président Biden a toutefois démontré sa maîtrise de certains dossiers internationaux. Il a rappelé avoir eu 3 examens neurologiques et a affirmé que les médecins le disent en bonne forme. « Je suis déterminé à être candidat, mais je pense qu'il est important d'apaiser les peurs », a-t-il déclaré. M. Biden a fait quelques lapsus sur les noms, notamment entre Poutine et Zelensky et entre son rival républicain et la vice-présidente Kamala Harris. « Bon boulot, Joe », a ironisé Donald Trump sur son réseau Truth Social. De nombreux démocrates, dont 10 de parlementaires, ont appelé Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle. À l'approche de la convention d'investiture du 19 au 22 août à Chicago. Dans un sondage Ipsos, 67% des personnes interrogées estiment que le président devrait retirer sa candidature et 56% des électeurs démocrates le demandent.
Les avocats de Donald Trump ont demandé l'annulation de sa condamnation pénale à New York pour paiement dissimulé à une star de film X, invoquant une récente décision de la Cour suprême qui reconnaît une large immunité à l'ancien président. Les ministres de la Défense russes et américains ont évoqué la réduction du risque d'une escalade lors d'une conversation téléphonique. C'est ce qu'a annoncé Moscou 2 jours après l'annonce par Washington du déploiement ponctuel de missiles de longue portée en Allemagne. Le Hamas a proposé qu'un gouvernement indépendant formé de personnalités n'appartenant à aucun parti dirige la bande de Gaza et la Cisjordanie après la guerre. La proposition émane ce vendredi d'un membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien, Jean-Roger Bion.
Ce gouvernement devra gérer les affaires de la bande de Gaza et de la Cisjordanie dans la première phase de l'après-guerre et tracer la voie vers des élections générales, a précisé Oussam Badran dans un communiqué. Ces recommandations s'adressent aux négociations en cours en vue d'un arrêt des combats à Gaza et la libération des otages. Ces négociations indirectes en cours entre Israël et le Hamas sont placées sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Un dirigeant du Hamas a néanmoins déclaré que la proposition de ce gouvernement non partisan a été présentée avec les médiateurs. Jeudi, le premier ministre israélien a rencontré le chef de la délégation israélienne de retour de Doha, David Bernéa, directeur de Mossad, pour faire le point avec lui sur l'avancement des pourparlers. Aussi, une délégation menée par le chef du Shin Bet, la sécurité intérieure de l'État hébreu, Ronen Bar, devait se rendre ce soir au Caire pour la poursuite des pourparlers.
Par ailleurs, environ 60 corps ont été retrouvés aujourd'hui dans 2 quartiers de la ville de Gaza, a indiqué la défense civile palestinienne, affirmant que l'armée israélienne s'est retirée de ces zones dans le nord du territoire palestinien. Au Yémen, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Sanaa aujourd'hui en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Les manifestants ont brandi les drapeaux yéménites et palestiniens et ont scandé des slogans anti-occidentaux. Depuis novembre, les rebelles houthis alliés à l'Iran lancent des attaques de drones et de missiles en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre des navires qu'ils considèrent être liés à Israël. Quatre migrants sont morts noyés aujourd'hui au large des côtes septentrionales de la France lors d'une traversée de la Manche que des milliers de candidats à l'exil empruntent chaque année pour gagner le Royaume-Uni. Une soixantaine de personnes avaient quitté les côtes françaises vers 2h du matin, mais leur bateau pneumatique s'est retrouvé en difficulté à l'aube. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, les autorités du territoire d'Uvira dans le sud Kivu ont interdit la vente d'essence et de gasoil au Burundi. Il s'agit de préserver les recettes fiscales et de stabiliser les prix, car on assiste à une pénurie de carburant et à la flambée des prix, affirme l'administrateur du territoire frontalier, Jean de Dieu Sélémani. Il dit avoir noté une augmentation du carburant transporté illégalement vers le Burundi par le fleuve Ruzizi. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres du 10 juillet a autorisé 2 permis d'exploitation pour un gisement d'or dans les départements de Diandra et Kani. Koné sera la 3e plus grande mine d'Afrique de l'Ouest. 3500 emplois devraient être créés de la construction prévue le premier trimestre 2025 à l'exploitation. Les permis ont une durée de validité cumulée de 28 ans. Selon l'agence d'évaluation des prix londonienne Benchmark Mineral Intelligence, l'Afrique devrait contribuer pour 9% à l'approvisionnement mondial de terres rares d'ici 2029. 8 mines de ces métaux utilisés dans l'électronique vont entrer en service à Ngala en Tanzanie, à Longonjo en Angola, à Kangankunde au Mali en 2025, à Palabora en Afrique du Sud et à Makutu en Ouganda en 2026. Les opérations de Gakara au Burundi ont été suspendues en 2021.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
On connaît désormais les oppositions des rencontres des tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF 2025.
Oui, le tirage au sort a été effectué hier au Caire en Égypte, entre autres rencontres à suivre. Ngezi Platinum du Zimbabwe fait face à l'AS Maniema de la République démocratique du Congo. Vitalo FC du Burundi affronte Young Africa de la Tanzanie. Azam FC, l'autre club tanzanien, lui fait face à APR FC du Rwanda. L'AS Douane du Burkina Faso joue contre Coton de Bénin. Et puis l'AS Léopard du Congo affronte le CR Belouizdad d'Algérie. Victoria United du Cameroun fait face au FC Samartex du Ghana. L'AS Gendarmerie Nationale du Niger joue gros face au Raja Casablanca du Maroc. Et puis l'AS Pessi du Tchad lui affronte l'US Monastir de la Tunisie. Les Red Stars de la République centrafricaine jouent face au Djoliba de Bamako. CD Mongomo de la Guinée équatoriale affronte l'Asco de Kara du Togo. Le stade d'Abidjan fait face à Tungef FC du Sénégal. Et puis Milo FC de la Guinée, lui, joue contre le FC Ouadibou de la Mauritanie. Borangers de la Sierra Leone affronte l'autre club ivoirien, San Pedro. Alali, l'Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns, Petro de Luanda et le tout-puissant Mazembe sont exemptés du premier tour dont les matchs allés auront lieu entre le 16 et le 18 août prochain et les rencontres retour une semaine plus tard. Après 2 victoires consécutives en finale contre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis, Alali d'Égypte espère devenir le premier club à remporter la Ligue des champions 3 fois d'affilée.
Finale attendue de l'Euro 2024 ce dimanche.
Ça se joue à Berlin entre l'Espagne et l'Angleterre qui retournent en finale 3 ans après celle perdue contre l'Italie à la maison à Wembley. Les Anglais veulent faire aussi bien que leurs aînés de 1966, champions du monde à domicile. La Rora, elle, va une fois de plus compter sur son collectif, mais surtout sur l'explosion de ses 2 ailiers jeunes, Lamine Yamal, 16 ans, et Nico Williams, 22 ans, qui ont crevé l'écran en Allemagne pour bousculer les Three Lions.
La finale de la Copa América se joue aussi ce dimanche, ici, aux États-Unis.
La Colombie de James Rodriguez fera face à l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre. Les Colombiens, désormais invaincus en 28 rencontres depuis début 2022, et une défaite contre l'Argentine ont donc l'occasion de prendre leur revanche à Miami face aux champions du monde 2022. Ils vont tenter de décrocher ce qui serait leur 2e titre continental après 2001.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Niger, plusieurs détenus se sont évadés de la prison de haute sécurité de Koutoukalé près de Niamey dans l'ouest du pays où sont notamment emprisonnés des djihadistes. L'annonce est faite par les autorités qui ont décrété un couvre-feu dans la zone. Cette prison de Koutoukalé a déjà connu deux attaques en mai 2019 et en octobre 2016. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Niamey le journaliste à l'enquêteur Ousseni Issa.
D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, les prisonniers, ils ont provoqué une mutinerie. Vous n'êtes pas sans savoir que la prison de Koutoukalé abrite beaucoup de chefs djihadistes et des combattants djihadistes. Ils ont simulé à l'intérieur de la prison, d'après les renseignements que j'ai pu recueillir, à l'intérieur, pour un peu divertir les gardes pénitentiaires qui étaient sur les guérites. Et c'est à ce moment, un groupe de djihadistes qui est venu en moto, lourdement armé, et ils ont commencé à ouvrir le feu sur la prison, jusqu'à ce qu'ils puissent pratiquement neutraliser. À ce moment, ceux qui ont simulé la mutinerie, ils ont pu ouvrir la porte et ils ont pu prendre la fuite. D'après les dernières informations que j'ai recueillies, il y avait au moins une quinzaine qui tentaient de traverser le fleuve. Il y a une dizaine qui ont été tués. Il y a quelques-uns d'entre eux qui ont été capturés. Ils n'ont pas été tués, ils se sont rendus.
Cette prison abritait des gens dangereux, dont des djihadistes, justement. Est-ce qu'on sait qui sont ceux qui se sont échappés?
D'après les informations toujours que j'ai pu recueillir, c'est que les prisonniers ordinaires, parce qu'il y a des prisonniers ordinaires qui ne sont pas allés pour la même cause dans la prison là. Notamment, je vais parler un peu des militaires nigériens qui ont été soupçonnés de tentatives de coup d'État. Il y en a plusieurs là-bas. Ils n'ont pas suivi le mouvement. Mais il y a également d'autres prisonniers de droit civil qui ont été déposés là-bas, qui n'ont pas voulu quitter. La grande masse des gens qui ont quitté la prison, c'est surtout ces djihadistes et les criminels dangereux, parce qu'il y en a beaucoup aussi là-bas. Comme c'est la prison de haute sécurité du pays, il y en a beaucoup qui ont pu s'évader. Mais bon, les recherches se poursuivent toujours. Et c'est des recherches qui se mènent avec des drones, mais également des hélicos de combat. Mais c'est également terrestre aussi, parce qu'il y a des soldats, toute la zone est quadrillée. Ils sont en train de rechercher les fugitifs.
Est-ce qu'on connaît leur nombre, le nombre de personnes évadées?
On ne connaît pas exactement le nombre de gens qui ont pu s'enfuir, parce que le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué sur le nombre et n'a pas communiqué sur les dégâts qui ont pu être occasionnés à l'occasion de cette attaque-là.
Cette prison de haute sécurité avait été attaquée en mai 2019 et en octobre 2016. Pratiquement de la même manière, est-ce qu'il y a un problème de sécurité justement autour de la prison?
C'est la question que les gens se posent véritablement, parce que pour l'accessibilité même à la prison, c'est compliqué. Parce qu'à distance, on peut apercevoir, s'il y a des gens qui arrivent, on peut les apercevoir parce que c'est sur une colline. On se pose bien des questions, comment ça se passe? C'est un manque de vigilance ou un relâchement de la vigilance. En 2016, il y a eu ça. En 2019, ça, ils ont carrément attiré l'armée dans un traquenard où il y a eu beaucoup de militaires qui sont morts. Une prison de haute sécurité et une prison qui est sur pratiquement une colline, on ne peut pas admettre que des choses comme ça puissent se dérouler. 2016, 2019, 2024, on constate que c'est à des intervalles réguliers.
C'était Ousseni Issa, journaliste à l'enquêteur.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a répondu aux questions des journalistes pendant près d'une heure jeudi en défendant haut et fort sa détermination à rester dans la course présidentielle malgré les interrogations sur son état physique. Monsieur Biden s'est exprimé en solo devant les journalistes à la fin du sommet de l'OTAN jeudi à Washington. Voici le reportage d'Anita Powell, correspondante à la Maison Blanche, récit Nanit Talani.
The president of the United States, Joe Biden.
Le président Joe Biden était bien préparé. Son apparition devant une presse affamée qui le harcèle sur son avenir politique est un défi majeur. Quelques minutes plus tôt, il avait déjà fait une grosse bourde en présentant le président ukrainien Volodymyr Zelensky par le nom de son ennemi juré, Vladimir Poutine.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine,
Et maintenant, je vais passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage que de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine. Le président Poutine, il va battre le président Poutine.
Le président Volodymyr Zelensky.
Je suis meilleur.
Jeudi, à la fin d'une journée bien remplie de réunions au sommet de l'OTAN, Joe Biden a répondu aux questions pendant près d'une heure et a tenté de s'élever au-dessus de ses récents lapsus pour se concentrer sur ce qu'il considère comme le plus grand défi de sa présidence, soutenir l'Ukraine contre les assauts de la Russie. Il s'est attribué le mérite de ce qu'il a qualifié de succès.
Au cours de la semaine de ce sommet, plusieurs chefs d'État ont tenu à remercier les États-Unis et à me remercier personnellement pour tout ce que l'OTAN a accompli.
Il a également reconnu le défi que représente la course à la présidence après sa performance désastreuse lors du débat le mois dernier face à l'ancien président Donald Trump. Il a décrit sa performance comme une erreur stupide, mais a réitéré sa conviction qu'il va battre Donald Trump en novembre.
Je pense être la personne la plus qualifiée pour se présenter à l'élection présidentielle. Je l'ai battu une fois et je le battrai encore.
La capacité de Joe Biden à relever les grands défis mondiaux a été l'une des questions posées au sommet de Washington, marquant le 75e anniversaire de l'OTAN. Les membres de l'Alliance ont pris plusieurs mesures concrètes pour soutenir l'Ukraine, y compris un plan visant à placer la coordination du conflit sous la responsabilité de l'OTAN et non plus de Washington. Et publiquement, de nombreux dirigeants ont rejeté les doutes sur l'aptitude de M. Biden. Alexander Stubb, président de la Finlande.
Je n'ai absolument aucune inquiétude quant à la capacité de l'actuel président des États-Unis à diriger son pays, à mener notre combat pour l'Ukraine et à diriger l'OTAN. Et je pense que ce sommet en dit long à ce sujet.
Certains analystes semblent être d'accord, comme William Gaston, analyste à la Brookings Institution.
Je pense que c'était une bonne journée pour M. Biden, la meilleure qu'il ait eue depuis un certain temps. Est-ce que cela changera le cours du ruisseau ou est-ce que ce sera juste une pierre dans le ruisseau sans changer fondamentalement son cours? Je ne sais pas.
Vendredi, M. Biden sera confronté à une nouvelle épreuve car il retournera en campagne à Detroit pour courtiser les électeurs.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Et nous restons aux États-Unis pour suivre cette histoire. Quatre volontaires qui ont passé plus d'un an dans le premier environnement martien simulé de la NASA au centre spatial Johnson de Houston sont sortis de cet habitat samedi. Nathalie Barge.
Kelly Haston, Anka Selariou, Ross Brockwell et Nathan Jones sont entrés le 25 juin 2023 dans l'habitat imprimé en 3D du CHAPEA, le projet d'exploration analogue de la santé et des performances d'équipage de la NASA au centre spatial Johnson au Texas. Killing Green, directeur adjoint des opérations de vol.
The path to Mars is beset with challenges.
Le chemin vers Mars est semé d'embûches. Et l'équipage et leur famille ont consacré une année de leur vie et de leur service à la NASA, au pays et à l'exploration de l'espace par l'humanité. Félicitations et merci à l'équipage pour avoir mis vos carrières en pause et vous être engagés dans des recherches qui permettront notre future exploration de l'espace.
Il s'agit de la première des trois missions de projet de confinement d'équipage de la NASA. Kelly Haston, commandant de la mission, a décrit une expérience unique avec des défis et du travail acharné.
Je suis tellement fière et honorée de faire partie de cet équipage et de ce projet, de faire partie d'une petite progression du travail effectué ici sur Terre, qui permettra un jour aux humains d'explorer et de vivre sur Mars. Merci beaucoup.
L'équipage a passé 378 jours à l'intérieur de l'habitat de 160 mètres carrés pour réaliser des expériences, notamment sur l'impact d'une nutrition spéciale et limitée sur leur performance. Ross Brockwell, ingénieur de vol de la mission CHAPEA, s'est dit heureux d'avoir eu l'opportunité de vivre dans un esprit d'aventure planétaire vers un avenir passionnant.
I'm very grateful to have had this incredible opportunity Je suis reconnaissant d'avoir la chance de vivre l'idée que nous ne devons pas utiliser les ressources plus vite qu'elles ne peuvent être reconstituées et produire des déchets plus vite qu'ils ne peuvent être transformés en ressources. Nous ne pouvons pas vivre, rêver, créer ou explorer sur une période de temps significative si nous ne vivons pas ces principes.
Les volontaires ont cultivé et récolté des légumes, effectué des exercices dont des promenades simulant des marches sur Mars, permettant à la NASA de recueillir des données pour un retour sur la Lune et un voyage sur Mars où il y aura des missions habitées. Judy Kramer White, directrice de l'ingénierie au Centre spatial Johnson.
Stay tuned for Chappie Mission 2, which will happen next year.
Restez à l'écoute pour la mission Chappie 2 qui aura lieu l'année prochaine et la mission Chappie 3 en 2027. Il nous reste encore beaucoup à apprendre et nous espérons que vous nous rejoindrez dans notre voyage.
Pour créer ces habitats extraterrestres, la NASA s'est associée à Icon, une entreprise de construction texane spécialisée dans l'impression de bâtiments 3D. Selon Rachel Kraft, chargée de communication pour le développement de systèmes d'exploration à la NASA, les futures infrastructures lunaires et martiennes pourraient être composées de laboratoires et de capacités de production et de stockage d'énergie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
De la musique pour terminer avec l'ouvrage 100 titres clés de la variété camerounaise. 100 chansons emblématiques pour raconter le Cameroun entre 1950 et 2020. Un narratif sur les secrets, les anecdotes et le succès des rythmes camerounais consignés dans un livre pour la postérité. Pour en parler, Jean-Roger Bion a joint à Yaoundé l'un des auteurs de cet ouvrage collectif, le journaliste Thierry Minkou.
À la disparition de Manu Dibango en mars 2020, cette idée qui nous trottait déjà à l'esprit est devenue une quasi-urgence parce que non seulement le grand Manu était parti à cette période-là, mais quelques mois après, il y a Claude Nam et un ou deux autres artistes camerounais qui nous ont quittés. Et derrière Manu, ça donnait l'impression d'un désert qui avançait sur la musique camerounaise. Et quand on s'est intéressé à Manu, il y a deux choses qui nous ont frappés. La première, c'est que tout nous ramenait à Sol Makossa. L'immense carrière de Manu était régulièrement résumée à Sol Makossa. Et deuxième chose, quand on regarde la musique camerounaise, il était présent à la plupart des étapes où la musique s'est développée. Donc, parler de Manu, c'était un peu parler de la musique camerounaise. Donc, l'un dans l'autre, voilà comment l'idée est née. Et donc, l'idée de choisir 100 titres, on s'est dit, si on peut faire l'exercice de ramener Manu Dibango à une chanson qui peut très bien résumer le basculement qu'il y a eu avec Sol Makossa, où Makossa s'est affirmé, où ça a été, paraît-il, l'ancêtre de la world music. Donc, l'exercice avec Sol Makossa pouvait-il être appliqué à d'autres chansons chez certains auteurs? Est-ce qu'on pouvait se contenter de 100 chansons pour donner une sorte de quintessence, un résumé essentiel de la variété camerounaise? C'est l'hypothèse de départ que nous avons prise et visiblement, c'était pas une si mauvaise idée. Il y a des millions de chansons au Cameroun, mais ces 100 chansons avaient vocation à représenter un peu les autres. C'est pour ça qu'on les a appelés titres clés.
Cette catégorisation des musiques camerounaises est nécessairement basée sur des choix arbitraires. Quels sont les paramètres qui ont présidé à vos choix?
Il y avait un ou deux paramètres qui nous semblaient incontournables. Déjà, ce sont des chansons emblématiques, c'est-à-dire des chansons que les Camerounais connaissent et que les non-Camerounais pourraient reconnaître. Claudicia, qui fait la préface du livre, a confirmé cette théorie où il disait que la plupart de ces tubes ont été des cartons aux Antilles. Donc, premier critère, que ce soit des chansons emblématiques. Deuxième critère, que ce soit des chansons qui permettent de résumer, de raconter un moment décisif de la carrière d'un auteur ou de l'avancement d'un courant musical. Si je reviens sur Sol Makossa, par exemple, c'est vraiment la naissance de la world music. C'est le moment où Manu Dibango bascule dans la dimension qui a été la sienne jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, voilà, ce genre de détails qui donnent une narration assez pertinente de la carrière, du travail en studio et du courant musical en question. Voilà les critères qui ont été appliqués.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro Clermont Ringibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram.